Bienvenue dans le podcast d'Anastasis. Cette série est consacrée au Festival des Poussières, qui a eu lieu cet été, du 25 au 27 août, dans le Kouamo de Goshen. Cette table ronde porte sur la question de la reprise des terres à l'agro-industrie, au rapport à la terre et la création tout entière que nous sommes appelés à vivre comme chrétiens, mais aussi au ciel et à l'éternité. Car notre espérance ne rend pas notre relation au vivant passagère, elle ne le transforme pas en simple décor de notre salut. Mais au contraire, le ciel commence dans la manière dont nous habitons la terre. Pour en discuter, Caroline Ingrand-Offet, Mathieu Yon et Benoît Sibyl, et à l'animation de la table ronde, Mélinée Le Priol.
Reprendre la terre et le ciel, c'est le nom de cette table ronde. Donc c'est vrai qu'on est chrétien pour la plupart d'entre nous ici, mais c'est peut-être un peu tentant parfois de vivre sur terre en regardant vers le ciel et en oubliant un petit peu la terre sur laquelle on pose les pieds. Donc on a choisi de donner la parole à trois chrétiens qui posent les pieds sur la terre et qui se préoccupent de cette terre tous les jours et pour qui cette question est une question assez centrale dans leur vie à la fois professionnelle et spirituelle. Et puis ces trois personnes qui luttent chacun à leur manière pour reprendre la terre à l'agro-industrie, au béton des routes ou des autoroutes notamment. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc juste ici à ma gauche, j'ai Caroline Ingrand-Offet qui est pasteur protestante en Alsace et qui s'engage aux côtés de zadistes contre le projet du grand contournement ouest de Strasbourg. Donc elle va nous en parler tout de suite. Voilà, et qui a beaucoup réfléchi à la question de la spiritualité dans les luttes et à la désobéissance civile. Juste à ma droite, j'ai Mathieu Yon, qui est maraîcher bio dans la Drôme, après des études de philosophie, mais qui continue de faire de la philosophie et qui écrit notamment des chroniques dans Reporter et qui écrit aussi parfois des livres, et notamment un livre récent qui s'appelle Notre lien quotidien, où il parle du besoin de la d'une spiritualité de la terre, dont on va en parler aussi. Et puis sur vos programmes était inscrit Joanne, qui est membre des Soulèvements de la Terre, mais qui est appelé à d'autres luttes ce week-end et qui n'est finalement pas avec nous. Mais on a la joie d'avoir Benoît Sibyl, que vous venez d'entendre hurler son cri à l'instant, et qui fait partie du collectif Anastasis, mais qui est aussi qui vit aussi en Bourgogne, qui enseigne la philosophie et qui fait partie qui a un projet dont il va nous parler, de groupement d'achat de terres collectif. Voilà, donc je vais commencer par leur donner la parole pendant une petite heure, et puis ensuite on aura une demi-heure d'échange où on vous fera vous regrouper à quelques-uns pour remonter une question à un intervenant et avoir des questions qui émaneront comme ça de l'Assemblée. Donc d'abord on voulait donner la parole à chacun des trois intervenants pour qu'ils nous disent un peu comment il fait le lien, ou il a fait le lien dans sa vie entre la lutte écolo et la foi. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Retracer un petit peu votre parcours en nous disant comment ces deux thèmes se sont articulés pour vous.
D'abord, j'aimerais vous dire que je suis très, très heureuse d'être là ce week-end. Merci pour l'invitation à Anastasis. On fait un peu figure d'un peu aussi d'extraterrestre en tant que protestant ici, mais c'est bien. Je crois qu'on n'est pas très nombreux. On n'a pas eu ça dans le jeu tout à l'heure, les protestants, les catholiques d'à côté. En tout cas, je suis très contente d'être là. Je trouve que c'est vraiment très, très important qu'on puisse se retrouver en tant que chrétien autour de ces questions de comment est-ce qu'on peut être présent en politique en tant que chrétien, et puis bien sûr sur les questions d'écologie. Alors évidemment, dans le protestantisme, le positionnement par rapport aux questions politiques est un tout petit peu différent. Moi, je suis issue d'une très très longue, de plusieurs lignées pastorales. voilà, et franco-suisse. Et j'étais pasteur à Genève avant d'être pasteur depuis 13 ans maintenant dans un village de la banlieue de Strasbourg. Et j'ai un père qui avait des engagements politiques, des mandats politiques parallèlement à son pastorat. Donc voilà, je n'ai pas inventé grand-chose de ce que je vis. J'ai vraiment grandi avec un très grand respect, un très grand intérêt pour le politique et l'importance du politique dans notre société. Et puis, bien sûr, la dimension spirituelle et le pastorat comme étant le plus beau métier du monde. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et en fait, cette dimension de lutte, au-delà de mes convictions, elle m'est tombée dessus, parce qu'il se trouve que j'ai été nommée dans une paroisse qui est sur le tracé du grand contournement ouest de Strasbourg. Alors, contrairement à ce qui a été dit, ce contournement, il existe actuellement. Les poids lourds sont dessus en permanence. Donc, on vit avec. Donc, cette lutte a été un échec d'un point de vue concret. Hein. Voilà. Mais donc, ça a été, c'est une lutte que j'ai vécue, que j'ai accompagnée de 2017 à 2019 en particulier, pour vraiment la partie lutte. Et effectivement, dans le village, il y a eu, en particulier dans le village où je suis pasteur, à Kolbsheim, à 15 km de Strasbourg, il y a eu une concentration de lutte, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Voilà. Donc, j'étais un peu, simplement pour dire ça comme ça, prise dans cette lutte de par mon lieu d'insertion, et ça m'a ouvert en fait énormément de perspectives, de questions, d'engagement par la suite. Voilà, je pense qu'on aura le temps d'y revenir.
Ouais. Donc Benoît, la question est difficile, le lien entre spiritualité et écologie. Je ne sais pas, peut-être partir d'un truc un peu anecdotique, mais un jour dans un... Donc je suis chrétien, voilà, et catholique, et un jour on s'est installé pas loin d'ici, à la campagne, et un jour dans un manuel de permaculture, je lis que les toilettes sèches, c'est super, que ça se composte et tout, mais que pour des raisons culturelles, la coutume est de ne pas les utiliser au potager. Puis je me suis dit, mais... C'est hyper bizarre, ce truc. C'est quoi les raisons culturelles qui font qu'on a peur de nos toilettes sèches? Et je me suis dit, il y a vraiment un problème culturel. Et je me suis dit, et du coup, c'est une question qui est devenue une question théologique pour moi, une théologie des toilettes sèches. C'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a peur à ce point-là du fait qu'on ait de la poussière et qu'on retourne à la poussière? Pourquoi est-ce qu'on a peur à ce point-là du fait qu'on ne peut rien manger sans que la terre ait été enrichie parce qu'il est venu de la terre et qui est passé par nous, et que de toute façon votre caca part des stations d'épuration pour être épandu sur des grandes monocultures, de toute façon. Mais pourquoi est-ce qu'on en a peur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le cacher? Et voilà, pour moi c'est devenu une question spirituelle, quoi, théologique. Et je me dis, mais c'est à quel point on a peur d'être des créatures parmi les créatures? Et voilà, donc peut-être juste une petite anecdote qui dit un peu la manière dont la question est écologique a une place dans ma questionnement spirituel, dans ma vie spirituelle. Et donc je suis ici aussi en tant que... Je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Petits Champs, dont on parlera peut-être plus tard, mais voilà, qui a pour but de récupérer des terres, racheter des terres pour les libérer de l'artificialisation, de la spéculation, et les confier aux paysans. Voilà. On parlera.
Donc moi je suis maraîcher depuis 7 ans. Je vis de mon métier correctement. J'ai fait différents petits métiers. Mais c'est vraiment à travers ce métier de maraîcher que je me suis accompli et que je continue à le faire et que j'espère pouvoir faire le plus tard possible. Voilà. Et donc moi, j'ai grandi dans la Drôme. Je suis né avec mon ami Benjamin qui est devenu... Lui, il a dévié, il est devenu prêtre diocésain, donc il a mal tourné. Moi je suis devenu maraîcher, ça va, mais les maraîchers sont mieux vus aujourd'hui que les prêtres, donc c'est bien, surtout quand on est bio. Et voilà, donc j'ai grandi dans une ferme avec un copain d'enfance qui s'appelle Alexandre. Alors Alexandre, ça m'embête de prendre la partie, mais il m'a dit qu'il était ok, parce que lui, du coup, mes parents sont des néo-ruraux, et donc moi je suis plutôt ce qu'on appelle un néo-paysan, c'est-à-dire que j'ai grandi à la campagne mais j'étais pas fils d'agriculteur. Et Alexandre, lui, il a repris sa ferme familiale, et donc avec des élevages en intégration, avec du maïs, etc., etc. Et donc lui, ils sont à 3 ou 4 maintenant, avec son frère, en GAEC, et ils gèrent plus de 200 hectares. Et c'est très beau ce qu'il fait, en fait. Voilà, c'est très beau. Donc, moi, je suis un pourfendeur des dichotomies faciles entre les gentils petits paysans bio, dont je serai le modèle, et les méchants agriculteurs historiques inféodés à la coordination rurale ou à la FNSEA. En plus, voilà, pour ne rien améliorer, je suis à la Confédération paysanne. Et je ne suis pas là en tant que. Je suis pas là au nom de la conf, mais. Et voilà, donc je suis bien investi aussi à la conf de la Drôme et au national, je représente la conf à la commission économie d'Interfel. C'est l'interprofession des fruits et légumes, donc c'est là que se décident les, si on enlève ou pas les emballages plastiques, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc la conf, elle a sa place ici. Il y a des gens, justement, il y a quelques années, qui ont fait une grève de la faim à la conf pour pouvoir que la Confédération paysanne puisse siéger aux interprofessions. Voilà. Même si aujourd'hui la tendance est à sortir des institutions, moi je pense qu'il faut reprendre le pouvoir sur les institutions. Voilà, mais ça c'est un débat qui pourra nous occuper, j'imagine. Et voilà. Et sinon, pour relier à la question de départ, c'est, je pense à une phrase comme ça en venant, en paraphrasant, en proposant une traduction de l'évangile, enfin, d'une phrase de l'évangile, c'est qui moi me parle. C'est, on pourrait dire, je ne suis pas venu à abolir le travail, mais l'accomplir. Je crois qu'il faut, l'Évangile doit trouver un moyen d'accomplir le travail et pas de l'abolir. Parce que je pense qu'à moins de le remplacer par des robots, on aura toujours besoin de mains, en fait, et de bras, et de jambes, et de cerveau, et de sang, et de sueur, pour faire pousser des légumes, pour s'occuper des vaches, etc. Donc, il y a du boulot. Voilà.
Merci à tous les trois. On va peut-être aborder la question, enfin voilà, le thème de cette table ronde, donc la question de la reprise de la terre, qui est une question aussi stratégique. On pourra parler plus tard peut-être de l'aspect, la dimension plus théologique, mais pour ce qui est de la lutte ou de l'organisation plus politique que ça peut représenter. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu concrètement de la manière dont vous êtes engagé sur cette question-là ? Et est-ce qu'il y a quelle modalité en fait privilégiée pour cette reprise de la terre ? Est-ce qu'il y a une manière chrétienne de le faire ? Est-ce qu'on peut parler peut-être de la désobéissance civile, puisque c'est une question que tu as travaillée Caroline, mais entre autres la question du sabotage, enfin voilà, comment reprendre la terre concrètement aujourd'hui, et comment en tout cas vous œuvrez pour ça, chacun dans votre sur votre lieu de vie.
Alors moi je suis une fille de la ville qui a débarqué pasteur dans un petit village d'Alsace. De paysans absolument pas bio et plutôt grand format. donc c'était assez brutal comme arrivée. Et finalement, cette lutte contre cette autoroute et essayer de préserver des terres extrêmement fertiles, hein, on est sur les terres parmi les plus fertiles d'Europe, ça m'a obligée d'abord, je dirais, comme tout le monde, enfin je pense qu'il y a d'abord une démarche personnelle à faire de sa relation propre à la terre. Moi, j'ai vraiment complètement changé ma relation à la terre, à la création, à la nature en général, mais en particulier à la terre. Et je pense que ce passage-là, on le fait chacun différemment, mais on y passe tous, je pense, si on est là et si on porte ses convictions et ses inquiétudes pour l'avenir. Ça, c'est une première étape. Et c'est vrai que pour moi, alors je trouve que la question de savoir s'il faut sortir ou pas des institutions, elle est extrêmement intéressante. J'ai pas d'avis arrêté sur la question, mais c'est vraiment une question, je pense, déterminante pour l'avenir aussi, à différents niveaux, mais peut-être aussi en tant que chrétien et par rapport à nos églises. Alors moi, personnellement, comme pasteur, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus facile, je veux dire ça comme ça, dans l'église protestante que dans l'église catholique. Clairement, l'archevêque de Strasbourg avait demandé à ses prêtres de ne pas prendre position sur le grand contournement. Donc voilà, problème réglé, pas de position. Voilà, nous, on a eu cette liberté. En tant que pasteur, nous, on était un petit nombre avec mon mari, qui est aussi pasteur et qui est là aussi. On a été soutenus. Et je disais à mon mari dans la voiture, c'est intéressant parce que le titre « Reprendre le ciel et la terre », en fait, notre président d'église, qui est un laïc, hein, a motivé en fait l'engagement des pasteurs contre ce contournement, en particulier l'opposition venait en particulier des politiques. Alors ça, on est dans un contexte alsacien, hein, où les églises ont quand même encore un petit peu de poids, donc c'est pas rien que des pasteurs ou des prêtres, mais bon là en l'occurrence c'était des pasteurs, prennent position, et donc ce sont d'abord des politiques qui sont allés téléphoner et voir le président de l'église en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent tes pasteurs, tu ne tiens pas tes pasteurs, ça c'est une phrase qui a été dite, tu ne tiens pas tes pasteurs. Et il a répondu dans un courrier qui a été publié dans les journaux, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de dire ce qui lui avait été dit, laissez les politiques s'occuper de la terre et vous occupez-vous du ciel. Et il a dit non, je ne suis pas d'accord, en tant que chrétien, en tant que pasteur, on a à s'occuper de la terre. Donc je me disais voilà, j'aurais cité Christian Albecker, président de l'église alsacienne, protestante. C'est tout un sujet aussi, cette relation entre église et politique, mais en tout cas, c'était en tout cas un aspect de cette, pour moi, en fait, de une espèce de facilité, on va dire, de soutien globalement, pour dire ça rapidement, de la part des autorités. Et puis en même temps, j'aurais envie de dire une découverte presque d'un autre ministère, parce qu'autant j'aime mon ministère de pasteur de paroisse, de devenir un peu pasteur de la ZAD, puisque c'est comme ça que j'ai été nommée et finalement je me suis fait à ce titre. Petit à petit, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et c'était vraiment un autre ministère, une autre manière de vivre mon pastorat, d'accompagner tous ces militants qui étaient là et d'apprendre énormément de leur relation à la terre. On était vraiment en permanence dans l'échange et ça, c'était extrêmement précieux pour moi, de jamais être évidemment dans la leçon, mais d'être toujours dans l'échange et en particulier, voilà, mon changement de relation à la terre, elle est venue là. Je me souviens d'une réunion, on était un peu moins nombreux que ça, comme ça, à la ZAD, et où la personne qui a commencé la réunion a dit « Bon, ben, je vous propose de commencer en enlevant tous vos chaussures pour entrer en contact avec la terre ». Voilà, ce qui n'était pas tout à fait naturel encore pour moi. Voilà, typiquement le genre de petits détails où je me suis dit « Bon, là, ben voilà, allons-y quoi ». C'était pas grand-chose, mais c'est simplement pour dire ça, c'est resté comme de petits signes où effectivement on peut simplement se mettre en communion avec chacun, notre autre manière de communiquer avec la nature, et on apprend des autres et on avance comme ça ensemble. Donc voilà.
Et quand tu parles de l'accompagnement des militants, concrètement, c'était quoi ? Enfin, quel type de présence tu étais sur la ZAD ? Comment tu interagissais avec eux ? Est-ce que ces interactions étaient toujours fluides ? Enfin, comment ça se passait concrètement, le fait que tu sois auprès d'eux le plus souvent possible ?
Alors, peut-être juste préciser que c'était... Bon, d'abord, c'était une toute petite ZAD, hein, par rapport à l'image qu'on peut avoir de certaines ZAD. Donc, il y a eu entre 10 et 20 ZADistes jeunes, principalement, qui étaient là, qui sont venus, qui ont passé d'énormément d'endroits de toute la France. Et une petite différence aussi qui était très intéressante, c'est que c'est, en fait, des locaux qui ont monté une association contre ce contournement et qui ont dit « il faut qu'on trouve des jeunes ». Qui sont prêts à venir habiter la forêt de Kolbsheim pour empêcher les machines d'agir. Et ça, je crois que c'est assez unique. Alors, s'il y a d'autres témoignages, ça m'intéresserait de savoir. Mais en général, il me semble que c'est plutôt les ZADistes qui arrivent quelque part et qui disent maintenant, nous, là, on va défendre là. Et parfois, ça crée des difficultés avec les locaux qui ne comprennent pas très bien pourquoi tout à coup on veut venir défendre leur terre, leur forêt. Là, c'est vraiment les locaux qui sont venus chercher les jeunes. Et ça a créé, pendant les 2 ans de présence de jeunes dans le village, une cohésion et un soutien assez extraordinaire. Et qui a passé entre autres par la présence et le soutien du maire, en l'occurrence du village, qui était vraiment le premier soutien extrêmement important, extrêmement présent, qui a pris énormément de risques pour ça. Et puis la pasteur, et voilà, on est encore dans un petit village alsacien, donc une fois qu'on a le maire et la pasteur, on a à peu près les autorités du village. Donc voilà, ça c'était effectivement un aspect un peu vis-à-vis des gens du village, c'était important, ça donnait une légitimité aux jeunes qui étaient là que la pasteur soit. fois présente. Après, la présence, ça pouvait, ils étaient en fait, la salle du presbytère, qui est, enfin, la salle paroissiale qui est dans la cour du presbytère était leur lieu de repli, donc je les voyais énormément pour toutes sortes de choses, que ce soit du pansement, ou voilà, au téléphone aux parents, enfin bref, j'ai fait toute fonction, mais ça a permis beaucoup d'échanges. Et puis, il y a un aspect aussi, c'est un aspect, mais ça peut-être qu'on y viendra à un autre moment, c'est l'aspect liturgique, l'aspect accompagnement des militants et des zadistes, vraiment alors dans en assumant un rôle de célébrant, pour dire ça comme ça, voilà, comme une des fonctions du pasteur, mais de l'assumer aussi dans ce cadre-là.
Est-ce que, après, on donnera la parole à nos deux compères. Peut-être une dernière question pour toi, Caroline. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont la lutte s'est engagée et comment est-ce que, puisque tu as travaillé sur la question de la désobéissance civile, comment tu articules ça avec un engagement de foi? Est-ce que c'est une modalité d'action qui te paraît logique, naturelle, cohérente que celle d'engager comme ça un rapport de force pacifique, mais de désobéissance?
Oui, alors évidemment, le pacifisme a été la limite qui a toujours été mise pour la désobéissance civile et la présence des zadistes, enfin voilà, dans toute la lutte. C'est vrai que là, ce qu'on a vécu au niveau de ces deux ans de présence dans cette lutte-là, mais enfin, je sais bien que c'est commun, malheureusement, avec beaucoup de lieux, c'est qu'en fait, on a vraiment ressenti que la violence était en face. Alors, de différentes façons, d'un point de vue légal et juridique, hein, avec on avait Vinci en face de nous, hein, non le moindre, mais il y en a d'autres, et l'État évidemment, et voilà, malgré 8 avis négatifs de toutes les instances possibles, imaginables, ils ont passé outre. Donc on avait vraiment un sentiment que le peuple, pour dire ça comme ça, enfin voilà, les citoyens n'étaient absolument pas écoutés. Malgré tout, les feux rouges, ils ont passé en force, en force, en force, en force, en force. Donc ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, et qu'on peut dire et faire ce qu'on veut, que de toute façon, voilà, ils vont le faire quand même, évidemment, ça pousse à se dire, mais alors jusqu'où on va, en fait? Et ensuite, quand on a décidé d'aller jusqu'à l'occupation d'une forêt, jusqu'à la défendre, jusqu'aux arrivées des gardes mobiles, voilà, puisqu'ils étaient 500 contre 200 militants, là, il y a un sentiment de... Enfin, c'est pas un sentiment, c'est une réalité de la violence qui vient des forces de l'ordre. Et clairement, la violence, elle était du côté des forces de l'ordre et pas de notre côté. Et ça, c'est quand même très particulier aussi, alors en tant que pasteur, mais en tant que chrétien et n'importe qui, hein, d'avoir vraiment de se rendre compte que la violence vient du côté des forces de l'ordre. Et même comme maman, j'ai envie de dire, hein, mes filles sont là aussi, mais c'est aussi étrange de voir comment est-ce qu'on parle des forces de l'ordre comme ceux qui sont contre nous, comme ceux qui ne nous défendent pas. Enfin, il y a quelque chose de pas logique, quoi. Et qui remue, en fait. Hein. On a tous vécu énormément de colère et de... Voilà. Donc, jusqu'où on va comment on gère sa colère, jusqu'où on va, où commence la violence, c'est une question que... Voilà, c'est aussi facile de dire la non-violence, mais quand on est sur le terrain, ça devient plus compliqué de mettre le curseur, et aussi justement en fonction de ce qu'on a vécu et de cette injustice profonde qu'on avait l'impression d'avoir vécu. Donc tout ça a énormément évolué aussi pour moi. Depuis, je me suis engagée, entre autres avec Greenface, dans de la désobéissance civile, parce que pour moi, en dire ça en une phrase, la situation et l'État va dans un tel sens que je pense qu'il faut qu'on n'a pas le choix, de mon point de vue, que d'aller dans la désobéissance civile. Et ce qui m'est apparu plus récemment, c'est qu'aussi, moi j'ai 48 ans, de me dire il ne faut pas seulement laisser les jeunes y aller. Ça, c'est la prise de conscience plus récente que j'ai faite. Il ne faut pas seulement laisser les jeunes dans la désobéissance civile, mais aussi y aller avec eux en tant que gens d'autres générations. Et puis, pourquoi pas justement aussi assumer y aller en tant que chrétien, et pourquoi pas assumer d'y aller en tant que pasteur.
Merci. On va peut-être poursuivre avec Benoît, puisque c'était l'ordre dans lequel on a parlé tout à l'heure, et puis n'hésitez pas aussi à reprendre la parole, mais pour rentrer un peu plus dans le détail, je ne sais pas si c'est générationnel aussi le groupement d'achat de terres dont tu fais partie, si c'est l'apanage des jeunes ou pas. Mais
non, c'est très intergénérationnel.
Et ben voilà, je veux bien que tu nous en parles un petit peu, que tu nous dises concrètement comment ça marche. Donc on rachète des terres pour les donner à l'agriculture paysanne.
Et peut-être juste un point, si tu me permets, pour préciser, parce que donc je vous parlais de ce projet dans lequel c'est clairement un projet de reprise de terres, mais du coup quand même de rappeler à qui on reprend les terres, parce que si on parle de reprendre la terre, il faut expliquer un peu ça. Et il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors Mathieu avec les chiffres aura peut-être les chiffres par la Confédération que j'ai pas en tête, mais on est passé en quelques décennies de plusieurs millions d'agriculteurs à 400 000, c'est ça aujourd'hui?
Ouais, entre 400 000 exploitations et environ 500 000 agriculteurs.
Sur les 10 ans à venir, il y a 50% de départs en retraite dans le monde agricole, ça veut dire aussi des terres qui se libèrent, et donc il y a un enjeu sur que deviennent ces terres-là, on va en parler juste après. Et puis l'autre problème dont tu auras sûrement les chiffres que je ne connais pas par cœur, de l'artificialisation des terres, enfin de la disparition des terres agricoles, chaque année disparaît, tu sais dire?
Non.
Non.
Beaucoup.
L'équivalent de? Voilà, c'est ça. C'est le chiffre que j'avais aussi. Un département tous les 7 ans, l'équivalent d'un département français tous les 7 ans de terres agricoles qui disparaissent. Donc, en fait, on est face à un truc monstrueux. Alors, ça disparaît pourquoi? Alors, on a nommé tout à l'heure dans la conférence manifeste le capitalisme. Mais en fait, ça disparaît pour être artificialisé, c'est-à-dire pour construire des routes, pour construire éventuellement des trucs en lien avec l'agriculture, genre des énormes plateformes pour l'agro-industrie, de stockage de matériaux, par exemple. Ça disparaît aussi pour être construit en habitat, les extensions pavillonnaires. Bref, c'est des terres qui étaient des terres paysannes, des terres sur lesquelles des gens travaillaient avec leurs mains pour cultiver, pour nous nourrir, qui disparaissent. Et il faut avoir à l'esprit qu'en fait, il y a une filière. Alors, c'est très important ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure sur le fait qu'il ne fallait pas dresser les paysans, les agriculteurs les uns contre les autres, parce que ce n'est pas les agriculteurs dont il est question. Il y a une filière qui va de la semence jusqu'au supermarché, qui est une filière des plus intégrées de l'économie capitaliste, dans laquelle tout est réglé de A à Z, et dans laquelle les acteurs de cette filière sont complètement dépossédés de leurs gestes. C'est pour ça que ton ami n'est en rien coupable des herbicides qu'il épand dans ses cultures. C'est des filières dans lesquelles un voisin paysan à côté de chez moi qui me dit qu'une fois il en avait marre, il a dit j'en ai marre, j'achète le grain à la COP, mais à la coopérative, mais j'achète pas les produits phytosanitaires. Bon, il a planté, il n'y a rien qu'à pousser, parce que ces terres ça fonctionne comme ça, son grain fonctionne pour pousser avec les produits phytosanitaires. On est face à des écosystèmes qui ne fonctionnent plus. Enfin voilà, il y a une situation vraiment que les terres sont prises, sont accaparées par le règne de l'argent, accaparées en particulier par la filière agro-industrielle, et il y a une dépossession. Et cette dépossession, c'est d'abord la dépossession des paysans. C'est-à-dire que c'est d'abord la disparition de la paysannerie, c'est-à-dire d'un mode de vie dans lequel la vie avec la terre fait partie de la vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est pourquoi on a besoin de reprendre. Il y a un énorme enjeu de reprise de terre. Et donc... 50% des agriculteurs partent à la retraite dans les 10 ans à venir. Ça veut dire aussi des quantités d'hectares de terres agricoles qui se libèrent. Quand une terre agricole se libère, ce qui se passe globalement, c'est que des propriétaires de terres rachètent pour augmenter la taille de leur exploitation, avec tout un système d'aides qui, de fait, subventionne au maximum plus il y a d'hectares. Donc on encourage, d'un point de vue étatique et supra-étatique européen, on encourage les exploitations les plus grosses. Donc évidemment, ça incite chaque agriculteur à augmenter, enfin chaque propriétaire, c'est pas forcément l'agriculteur lui-même, à augmenter le volume de ses terres. Et donc il y a un énorme enjeu de qu'est-ce qu'on fait pour reprendre ces terres. Donc ça peut être sur des trucs très ponctuels, un détournement de ville, là il y a une forêt qui va être rasée, il y a des gens qui s'installent. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui reprise de terre, parce que c'est devenu un peu un mot dans le langage militant, c'est tout un tas de stratégies très différentes, qui vont de la ZAD, donc des gens qui s'installent quelque part pour dire on va habiter ce lieu. Et une ZAD, c'est pas simplement des gens qui habitent dans des cabanes et qui sont tout sales, c'est des gens qui cultivent la terre en général. À Notre-Dame-des-Landes, c'est des centaines d'hectares, c'est du pâturage, c'est du maraîchage, c'est des céréales, c'est une filière bois, etc. Donc c'est des gens qui s'installent pour remettre ici et maintenant des activités paysannes. Donc dans le cas d'une ZAD, c'est illégal. Il y a d'autres situations dans lesquelles on va essayer, par des voies légales, de juridiques, etc., de s'opposer. Alors nous, ici, donc à 50 km d'ici, à Montbar, mais il y a la même formule qui existe à 10 km d'ici, à Malin, on a constitué ce qu'on appelle des GFA citoyens. Un GFA, dans le langage technique agricole, c'est un groupement foncier agricole. C'est un truc qui n'a pas du tout été inventé pour les militants. C'est un truc qui permet d'avoir de la propriété collective. Par exemple, deux frères qui, ensemble, sont propriétaires de 50 hectares pour faire leur activité agricole. Donc, c'est un outil juridique qui dit on n'est pas une seule personne propriétaire, on est plusieurs. Alors, cet outil, il y a des citoyens un peu partout en France qui le reprennent et qui disent « Ok, donc, on va faire des levées de fonds de citoyens, on va devenir tous ensemble sociétaires, on va tous prendre des parts pour constituer un capital, et avec ce capital, on va acheter des terres. » Donc nous, autour de Montbard, on est là, ça fait un an que ça existe, on est 71 sociétaires qui ont pris des parts, la part commence à 100 €, on a constitué comme ça un capital et on achète. On essaye d'acheter, parce que c'est peanuts ce qu'on fait par rapport au problème, on essaye d'acheter des terres pour limiter l'artificialisation des sols, pour éviter la spéculation sur le foncier, c'est-à-dire le problème que les terres, elles ont un coût du fait qu'elles peuvent être constructibles, du fait qu'elles peuvent être vendues à plus offrant, etc. Et pour y installer des paysans. Donc en fait, nous, on achète des terres qui deviennent propriété collective de citoyens, qui ensuite les mettent à disposition avec des baux ruraux à des paysans qui, eux-mêmes, ont du mal à accéder à la terre. Okay. Donc c'est un outil juridique hyper simple. Tous là où vous êtes, vous pouvez regrouper 50 potes autour de vous et constituer des GFA pour aider les paysans à acheter des terres. Parce que un des problèmes fondamentaux du monde paysan aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. Donc voilà, nous, à côté de Montbard, on a un collectif qui a bossé un peu 2 ans pour réussir à faire ça. Ça fait 1 an que ça existe. Et on a pu acheter un premier terrain sur lequel une jeune femme s'est installée il y a 1 an pour cultiver des petits fruits. Et on espère pouvoir continuer d'acheter d'autres terrains. Voilà ce qu'on entend par reprise de terre.
Merci Benoît. Mathieu, est-ce que tu veux nous parler de la manière dont cette question se pose dans ta pratique maraîchère ?
Alors, moi, j'ai fait le choix, quand j'ai bien compris que si je ne voulais pas me surendetter pour commencer à être paysan, il fallait que je trouve d'autres moyens. Donc, plutôt que d'acheter une ferme qui est plus accessible pour des paysans, si t'es pas issu du milieu paysan, à moins de débourser beaucoup d'argent, en tout cas quand tu es seul. Du coup, on a acheté une petite maison de village dans Diolfi et je suis en fermage. Et il faut quand même se rappeler que le statut du fermage, qui est né à peu près en même temps que la sécurité sociale, après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était un statut qui protégeait qui était fait pour légiférer là où les paysans étaient laissés vraiment avec des statuts en tant que métayers, etc. Ils n'avaient pas de droits, ils devaient limite reverser une part de leur production aux seigneurs locaux. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale donc, que le statut du fermage est apparu. Maintenant, dans notre société actuelle, il est décalé parce que beaucoup de gens le trouvent beaucoup trop contraignant pour les propriétaires. C'est-à-dire que moi, je suis en bail de 9 ans renouvelables. C'est le barème, c'est fixé par la préfecture. Donc, dans la Drôme, c'est assez élevé, paraît-il, mais ça reste que 130 € par an. Donc, je paye un fermage à mes propriétaires de 130 € par an. De 9 ans renouvelable. Donc je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas capitaliste, mais je suis propriétaire d'usage en fait. Et moi je m'en fous complètement d'être propriétaire foncier en fait. Et il faut savoir que la plupart des paysans ne sont pas propriétaires fonciers en fait, de la majorité de leurs terres en fait. Il y a énormément de terres en fait, je ne sais plus les chiffres, mais en tout cas, les terres que, j'aime pas le mot exploiter, mais les terres que cultivent les paysans en fait, ils sont en majorité pas de leur propriété. Donc ils sont en statut de fermage quand ils peuvent, et quand les propriétaires ne veulent pas faire un statut de fermage, c'est des commodas, donc là c'est 1 an renouvelable, mais en fait au bout d'un an tu peux dégager. Donc voilà, en fait il y a quelque chose qui s'appelle le fermage qui est très intéressant, mais ça veut dire qu'aussi, comme il y avait des millions de paysans il y a des années, après la guerre, en fait beaucoup de familles ici présentes ont probablement hérité de terres familiales dont les grands-parents étaient des paysans. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des propriétés foncières, en fait, agricoles, dans la main de gens qui ne sont plus des paysans. Et quid ? Moi, j'ai eu pas mal de déconvenues dans le sud, parce que je suis de la Drôme, mais j'ai fait 4 ans de maraîchage, c'est là où je me suis formé dans le sud, dans l'Hérault. Et j'ai bien vu ce que c'était, en fait, cette histoire du capitalisme foncier. Et il n'était pas que du côté des pays agriculteurs, je veux dire, il était aussi du côté des propriétaires qui avaient des activités économiques dans tous les domaines professionnels, divers et variés, et qui avaient beaucoup de mal à céder même une part de leur terre agricole en fermage, parce qu'ils disaient « oui, mais qu'est-ce que j'en fais ? Ce ne sera plus à moi », etc. Voilà, donc en fait, la famille qui me l'a loué, c'est 5 frangines en indivision. Je me dis, ça va jamais marcher, il faut que les 5 elles signent, etc. Et leurs parents avaient des vaches et elles avaient envie de faire continuer l'histoire agricole sur ces terres. Donc il faut trouver des gens qui ont envie de faire continuer une histoire et des gens en face qui ont envie de la continuer aussi. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, donc il s'agit bien de ça, effectivement, pour que ce ne soit pas un vœu pieux de reprendre la terre aux machines, pour reprendre le mot de l'atelier paysan du livre, que j'aime beaucoup. Il faut que se rencontrent des terres et... sans vouloir faire... Et des déterres, si on fait un jeu de mots comme ça. Mais des déterres aussi, comment dire... moi, j'avais vu Jojo il y a 2-3 ans, parce que j'étais invité à la ZAD pour parler du rensauvagement avec, pour la conf. Et donc Jojo, qui n'est pas là aujourd'hui, j'espérais le revoir, parce qu'on s'était vu à ce moment-là. C'était tout début des soulèvements de la Terre. Donc voilà, pour moi, là où je trouve le débat intéressant, mais ce qu'il faut faire attention, à mon avis, c'est le capitalisme qui a mis en rivalité les agriculteurs entre eux. Donc comment, dans nos stratégies d'action écologique, on ne rejoue pas ce système-là d'accentuer la division et la fracture qui a été mise dans le monde agricole. Je ne suis pas en train de dire que la Confédération paysanne et la FNSEA doivent s'allier, j'y crois pas une seule seconde. Par contre, à la base, tous les paysans que je connais, qui sont à la FNSEA, la Conf ou ailleurs, ou rien du tout, en fait, ils se prêtent des trucs, ils échangent des machins, et ils se parlent tant bien que mal. Donc, il faut trouver une solution pour que, quelque part, on ne rejoue pas ce scénario écrit d'avance, fratricide, je considère fratricide, et fratricide dans une famille où il y a déjà les 80% de la fratrie qui a disparu. Parce qu'on était des millions, les paysans étaient des millions à sortir de la guerre, et il n'y en a plus que 4 ou 500 000. Donc, par exemple, les chiffres actuellement, je trouve ça très peu, les producteurs de légumes, maraîchers compris, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'installations en maraîchage, etc. Il y a 30 000 maraîchers en France. Enfin, producteurs de légumes, maraîchers compris. Franchement, c'est pas BZF, quoi. C'est pas, ça va pas chercher loin, quoi. Et on peut, je pense qu'on peut faire mieux. Pour moi, voilà, mon point de vue, qui est pas absolu, etc. Mais ce que je défends, c'est que c'est une lutte par l'usage. C'est par l'usage qu'on aura une crédibilité dans le milieu écolo, peut-être, mais surtout dans le milieu agricole. Effectivement, il y a une sorte de considération pour l'usage et l'effort consenti en fait dans le milieu agricole. Alors là, pour le coup, même les gens de la conf bossent beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose à ressouder entre les paysans. Malheureusement, effectivement, vous l'avez bien dit, le système actuel de la PAC, où les aides sont à l'hectare, incite à l'extension, incite à l'accaparement du voisin pour ses besoins, mais pas pour ses besoins, parce qu'en fait, ça rapporte de l'argent, en fait, d'avoir plus de terres, quand bien même on n'en ferait rien. Donc là, il faudrait faire des histoires syndicales, mais ça nous amène très loin, il fallait inviter José Bové. Voilà, mais voilà, c'est une vieille histoire. Et c'est effectivement, de ce point de vue-là, les institutions ont créé des lois destructrices, en fait. Mais il y a aussi, alors la Drôme c'est particulier, si vous voulez, la moyenne des hectares en France, c'est maintenant en moyenne, hein, c'est 69 hectares par exploitation. Ça paraît beaucoup, mais dans l'Est de l'Europe, en Roumanie et autres, on parle de milliers d'hectares. Au Brésil, on parle d'exploitation, elle fait 20 ou 30 000 hectares, à minima. Donc c'est assez paradoxal notre situation, en fait, et j'avais, ça c'est un peu le truc que j'envoie chez La Croix, enfin Le Coup Journal, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai halluciné quand j'ai vu ces chiffres-là, et je l'ai envoyé au Comité national de la Conf, et il y en a qui ont été surpris. Il y a une bascule qui est en train de se faire, actuellement, effectivement. Les paysans qui ont repris la ferme de l'oncle, comme mon copain d'enfance, son oncle a arrêté, il a repris la ferme, en fait, c'était ça où ça s'arrêtait. Donc c'est là que ça s'est joué. C'est pas forcément... Je dis pas que dans l'ouest de la France, il paraît que c'est un autre truc, tu vois, vers les Deux-Sèvres. Mais dans ce que je vois, c'est des gens, en fait, il y a l'oncle qui arrête. Ben, on reprend, quoi. Mais c'est pas toujours une... Je dis pas qu'il n'y a pas des gens voraces, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà, donc il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait un partage. Et en même temps, il faut bien qu'il y ait un partage. Mais juste pour dire le chiffre actuel, qui, moi, m'a fait drôle, en fait, il y a 70% des fermes actuelles en France, toutes fermes confondues, 70% des fermes actuelles sont à moins de 2 temps plein, équivalent temps plein. Donc, en fait, on est fixé sur la question des surfaces, et à la conf, on est les premiers à être fixés sur la question de c'est trop gros, des fermes trop grosses, mais il y a des fermes de 100 ou 150 hectares, ils sont un ou deux. Et du coup, ça, c'est mon dada, c'est-à-dire qu'il faut repartir de la question sociale. Repartir de la question sociale. Si c'est des fermes à un ou deux agriculteurs, en fait, quelque part, on est encore en commun. Quand ça basculera sur des fermes, des montages sociétaires et de la finance et autres, avec des grosses boîtes qui rachètent des milliers d'hectares, etc., là, on aura basculé dans un autre monde, ce qui est déjà le cas au Brésil et dans plein de pays. En France, on est vraiment dans la transition. Ce qui se joue comme scénario, c'est que vu l'effondrement de la démographie des paysans actuellement, on va les remplacer par de la main-d'œuvre salariée d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, mais on aura du mal à trouver les bras, à mon avis, ici. Donc, on va la remplacer par de la main-d'œuvre. Donc, ça sera, comment on appelle ça, une oligarchie, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est en train de se jouer. Et clairement, c'est le scénario qui est un petit peu en train d'arriver. Voilà.
Puisqu'on est quand même dans un festival où il est question d'évangile et de révolution, au pluriel, on va parler un petit peu de théologie. Tout à l'heure, dans la petite conférence manifeste introductive, on a entendu que cette théologie qui exclut le vivant non humain est une folie et que on est nombreux ici à être convaincus que notre monde n'est pas un simple décor dans lequel les hommes seraient plantés en attendant l'avènement du royaume des cieux. Donc comment pour vous s'articule cette question de la eschatologique aussi, mais de la terre dans la spiritualité chrétienne, quel rôle est-ce qu'elle joue? Mathieu, si tu veux reprendre la parole tout de suite.
Pour moi, c'est essentiel, en fait. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le bouquin. Alors, je m'appuie beaucoup sur la philosophe Simone Weil, avec un W, qui pour moi est un peu l'alpha et l'oméga. Enfin, voilà, c'est. Je la relis, c'est depuis le temps que 20 ans que je la lis. À chaque fois, je découvre quelque chose. Et elle parlait effectivement de la question de la spiritualité du travail. Et elle disait qu'en fait. Quelque part, c'est la grande invention de l'Occident et peut-être du christianisme. Ce que n'avaient pas fait les Grecs, c'est cette question du travail, qui doit être un lieu de pas nécessairement d'épanouissement personnel comme on l'entendrait aujourd'hui, mais un lieu de libération pour le coup eschatologique. Et pour ça, en fait, il faut sortir le travail d'une soumission au capital. Donc comme ça paraît. Soit bizarre, soit utopique, soit impossible. Mais je crois que c'est là que ça se situe. Et Simone Weil parle énormément de ça. C'est-à-dire, quelque part, la modernité a... J'idéalise pas du tout les journées de travail infinies avec les bœufs, etc., qu'avaient les anciens, etc., quand ils travaillaient la terre. Mais il y avait malgré tout un rapport au monde beaucoup plus complexe que celui qu'on a aujourd'hui. Avec le prix qu'il fallait payer pour faire vivre ce rapport au monde, c'est-à-dire le prix d'un énorme effort. Et peut-être que là, il est temps de trouver un compromis, un équilibre entre un monde, on va dire, numérique, etc., ou automatisé, où il n'y aurait plus de rapport au corps et à l'effort, et ce monde de paysans d'autrefois, où le labeur est extrêmement difficile. Voilà. Simone Weil, quelque part, elle dit qu'on a volé le trésor de l'attention aux travailleurs manuels. Dans ceux qui travaillent la matière, en fait, Simone Weil dit que c'est une eucharistie, en fait. Et elle explique qu'en travaillant la matière, ils ont un accès direct et réel au monde, en fait. Et ce que qu'un intellectuel peut ne pas toujours arriver à faire parce qu'il peut se raconter des histoires. Simone Weil, elle dit le travailleur manuel qui est en contact avec le réel, s'il arrive à relever la tête, parce que souvent il est assommé et la tête baissée par le travail, mais s'il relève la tête, il aura un contact avec le réel, parce qu'il ne se racontera pas d'histoire. Parce que la matière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est Dieu vivant, c'est la création, et quelque part, passer ses jours entiers à quatre pattes, par terre, dans les champs, dans l'herbe, au milieu des oiseaux, des insectes et autres, et des orties et je ne sais quoi, c'est être en contact au quotidien avec Dieu. Donc, encore faut-il arriver à faire ce travail-là et à imaginer que ce soit possible et à se le rappeler. Et là, c'est tout le travail pour moi que des week-ends comme ça devraient faire émerger, mais qui manque énormément, effectivement.
Oui, sur cette formule, tout à l'heure dans le manifeste de notre théologie écocidaire. En fait, j'ai remarqué souvent que alors, les chrétiens, enfin, il y a certaines paroles parfois du monde écologiste qui accusent le christianisme d'être participant ou responsable de la crise écologique par le fait que notre religion est très anthropocentrique, que notre religion finalement fait du monde un décor qui va disparaître et donc nous fait penser que finalement tout ça n'a pas trop d'importance. Et en tant que chrétien, on a tendance à réagir en disant « Oh non, c'est pas vrai, quand même, il y a Saint-François d'Assise, quand même, il y a Laudato si. » Puis on se rassure un peu. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment entendre l'accusation. Il faut vraiment entendre l'accusation, et pas pour dire « Ah, bah du coup, on arrête d'être chrétien », mais pour relire notre tradition chrétienne. Et moi, du coup, bon, c'est mon métier de lire des livres, je suis prof de philo, et puis j'ai fait de la philosophie et de la théologie avant. Et en fait, ce qui m'a ébloui en lisant les Pères de l'Église, c'est-à-dire la théologie des sept premiers siècles de l'Église, c'est qu'en fait, pour aucun père de l'Église, ça viendrait à l'idée de dire que le salut ne concerne que les hommes. Thomas d'Aquin, 13e siècle, c'est là, encore plus tardif, Thomas d'Aquin, quand il parle des hommes, quand il parle des animaux, il dit l'homme et les autres animaux. Il n'écrit jamais l'homme et les animaux, comme nous, on aurait spontanément dit. C'est toujours l'homme et les autres animaux. C'est-à-dire, 13e siècle, pour Thomas d'Aquin, catholique, hein, parce que Thomas d'Aquin, ça va, c'est pas un hérétique. Thomas d'Aquin, c'est clair pour lui qu'on est des animaux. C'est clair. Oui. Et du coup, il y a un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un moment. Alors, ça, c'est un peu le boulot de l'histoire de la théologie, de la philosophie. Il y a un moment où notre théologie, elle a dévié. Et notre théologie, elle a commencé à ne parler plus que du salut de l'âme. Et comme si, finalement, le salut ne nous concernait que spirituellement. Quoi. C'était un truc dans notre tête. Et puis. Et on s'est mis à parler du salut de l'âme et à oublier le salut du monde. Et à croire que, finalement, le royaume. Ça serait un truc où il y aurait nos esprits, éventuellement avec une sorte de chair ressuscitée, mais quand même pas trop concrète, qui serait en train de regarder Dieu toute la journée. Comme si tout le reste allait... Dieu avait créé les arbres, ouais, comme ça, juste pour faire joli sur la photo. Quoi. Dieu, les insectes, les vers de terre, les... Comme si tout ça, au fond, c'était juste pour nous faire plaisir, pour que ça soit à peu près joli le décor dans lequel on vit, mais à la fin, on tourne la page. Quoi. Et de fait, notre théologie a dit ça. Notre théologie a dit ça de toute l'époque moderne et on est encore imprégné de ça. Enfin, je sais pas, vous avez sûrement parmi vous des gens qui ont des souvenirs de caté. On demande à la dame caté si notre chien ou notre chat il va ressusciter. Bah non, quand même. Bah non, les chats, bon. Oh, bah il est triste. Bah t'es triste. Comme si. C'est... Mais juste, il y a aucun père de l'Église qui aurait dit une bêtise comme ça. Et du coup, alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans. C'est de dire, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que ça... Alors, on peut faire des grandes généalogies des idées, dire que c'est la faute à Descartes, puis trouver le théoricien qui s'est planté le premier, etc. En fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de dire, mais qu'est-ce qui a changé dans nos pratiques, dans nos vies, dans nos gestes, pour qu'on se mette à penser des trucs comme ça? Parce qu'en fait, notre pensée, elle est toujours liée à nos gestes, à notre vie. Et en fait, quand même, ces virages de la théologie... Ça correspond à la naissance de l'époque moderne, de l'avènement de la technique, du développement de la propriété privée, de la naissance du capitalisme. Enfin bref, ça commence au 15e siècle, puis ça prend de l'ampleur jusqu'au 19e. Quoi. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre conscience, nous, avec un regard critique, ce que Étienne et Marie-Nille appelaient un retour critique sur notre tradition, du fait que notre tradition, à des moments, il y a des voies, et puis elle bifurque. Puis des fois, il faut faire un petit pas en arrière, reprendre une petite voie qui est dans la tradition. Mais puis se rendre compte qu'on a fait un bout de chemin où on s'est planté. Quoi. Et du coup, de se dire, mais on a donc la théologie de nos gestes. Pourquoi les pères de l'Église, ils croyaient au salut du cosmos, au salut du monde? Mais parce qu'ils étaient dans des sociétés paysannes. Ils étaient dans des sociétés où tout le monde avait les mains à la terre. Et pourquoi nous, on ne croit pas à ça? Parce qu'on est dans des sociétés numériques. On est dans la terre n'existe pas pour nous. La terre n'existe pas dans notre sensibilité. Oui, les légumes, enfin, on ne connaît rien de la vie des plantes. Donc nous, on habite en Bourgogne depuis 4 ans. J'ai l'impression tous les jours d'apprendre des trucs sur la manière dont vivent les légumes de mon jardin. C'est vrai, mais je ne connaissais rien. Ce dont je vis depuis ma naissance, j'ignorais tout. La manière de tous ces autres vivants autour de moi. Et voilà, du coup, je pense que la conversion théologique qu'on a à faire, elle est en même temps une conversion de nos pratiques, de nos gestes, et du coup aussi des structures qui engendrent ces pratiques et ces gestes. Quoi. On a un truc un peu massif à faire de changer de monde. C'est-à-dire à la fois changer d'idée, mais on ne change pas d'idée comme ça dans un laboratoire, dans notre tête. On change d'idée en changeant de geste. Voilà. Et du coup, je tendrai la perche, mais peut-être d'abord Caroline aura des choses à dire, mais parce que Mathieu a écrit des choses magnifiques sur la manière dont ces gestes paysans, quand il est à quatre pattes avec ses laitues, voilà, nourrissent une vie théologique et spirituelle, quoi. Mais
Eva, Mathieu, tu peux rebondir, ou alors Caroline nous parler, parce qu'on était dans la théologie écocidaire, ça m'intéressait d'avoir un regard protestant sur cette théologie, savoir un peu comment, voilà, de ton point de vue et du point de vue de ton église, et ben la question a été appréhendée et l'est aujourd'hui. Enfin,
Alors mon mari est spécialiste dans ce domaine, donc vous pouvez voir Jean-Sébastien. J'avais plus envie de dire que dans ce qu'il faut changer, bah, il y a aussi nos églises. Et franchement, je mets autant les catholiques, l'église catholique que l'église protestante, ce sont nos institutions et ce qu'on a mis au cœur de notre église. Moi, c'est quand même ça qui m'a un peu sauté à la figure dans cette lutte. Et quand je disais que j'ai découvert un nouveau métier de pasteur à la ZAD, c'est aussi que finalement, je me suis rendu compte que à la ZAD, personne n'attend rien d'un pasteur et que c'était absolument extraordinaire. Parce que j'avais tout à créer, en fait, un espace où en fait les gens étaient ravis de ce que je pouvais offrir, de ce qu'on pouvait partager, dans un esprit voilà, sans qu'il y ait ces attentes et ce côté tel sclérosé, hein, pour dire ça comme ça, de nos églises où on est enfermé un peu dans notre confort, et puis aussi maintenant dans nos inquiétudes sur l'avenir de nos églises et pour moi, bah, clairement, dans cette lutte, l'avenir de l'église, bah, j'ai vu qu'il était dehors, quoi, qu'il n'était pas à l'intérieur. Et même si on a réussi à vivre quelques éléments aussi rassembleurs dans l'église, mais voilà, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une place pour l'évangile, pour dire ça comme ça, à l'extérieur, dans le monde, dans les préoccupations théologiques, préoccupations écologiques et théologiques aussi actuelles. Il y a vraiment, enfin, la dimension subversive, pour dire ça comme ça, de l'évangile, elle est enfin, moi, j'ai vu des jeunes là qui n'avaient jamais entendu parler ni de l'évangile et encore moins d'un pasteur réagir de manière très très positive, parce que ça interpellait, en fait, ça faisait écho à des préoccupations qui étaient les leurs. Et voilà, le Christ est fondamentalement subversif, il remet en cause le système, il est toujours en train de poser des questions au lieu de répondre. Enfin voilà, des tas de d'approches pour moi, et de spiritualité, de théologie qu'on peut vraiment utiliser dans le monde, pour utiliser cette expression comme ça très générale aujourd'hui, où je pense vraiment on peut être entendu si on vient avec l'esprit ouvert et bienveillant. On peut vraiment être entendu. Nous, c'est vraiment ce qu'on a appris dans cette histoire, c'est que il y a une curiosité, en fait, quand on dit à des militants écolos, voilà, nous on est là au nom de nos convictions chrétiennes. Franchement, moi, il n'y a personne qui est venu en face ni m'envoyer une tomate à la figure ni me dire que c'était débile. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas venus discuter avec moi, évidemment, hein, certainement, mais globalement, vraiment, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'il y a une place à prendre. On a une place à prendre en tant que chrétien dans ces luttes, dans ces préoccupations. Pour dire ça comme ça, aussi du point de vue de porter une parole publique, voire une parole politique. Parce que, alors, il y a les conflits entre paysans, mais il y a aussi des conflits entre partis politiques. On voit que c'est quand même extrêmement compliqué d'avoir une parole constructive et positive politique aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas les églises, les chrétiens qui porteraient une parole un peu à côté, qui n'entre pas dans malheureusement ce qui décrédibilise la politique et les politiques. Juste pour donner cet exemple, moi, ce qui m'a mis le plus en colère de tout ce que j'ai pu vivre, c'est le discours de Jean Castex quand il est venu inaugurer le grand contournement de Strasbourg, où il a entre autres annoncé qu'il allait relancer tous les projets autoroutiers en France, ce qui s'est passé depuis. Ça date de décembre 2021. Vous pouvez voir, tous les projets autoroutiers qui étaient en rade, ils ont été relancés. Il l'a annoncé à Strasbourg. Et moi, j'étais derrière mon écran quand j'ai écouté son discours, et là, le ramassis de mensonges, de moqueries, de enfin, vraiment, c'était abject. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais en colère comme jamais dans ma vie. Et donc, je lui ai répondu. J'ai fait un courrier des lecteurs qui a été publié en réponse au discours de Jean Castex d'inauguration de ce GCO. Et j'ai bien senti là que on était un an et demi au moment de l'ouverture du GCO. Donc, vous imaginez bien que tout le monde était à terre, des militants, et que quelque part, j'avais encore cette... cette énergie, cette foi peut-être, et ce métier aussi derrière de savoir mettre des mots sur ce que ressentent les gens et d'avoir aussi cette position qui me permettait aussi de répondre et d'être publiée. Et ça a été, c'était un élément aussi. Étonnamment, j'ai répondu à Jean Castex, mais je l'ai vraiment fait en me disant je suis dans mon rôle de pasteur quand je fais ça, parce que je porte une parole de gens qui...
Voilà, c'était notamment en réaction à ce que tu as pu dire, mais c'est une question ouverte.
Ni les associations, plus personne ne savait comment porter cette parole. Bon, voilà. Cette fois-là,
merci
en tout
pour
cas,
la question. C'est une grande question d'actualité. Comme je disais, j'ai surtout... Enfin, c'était un prérequis. C'est clair que dans la mesure où chez nous, la ZAD, elle était soutenue par le village, elle était soutenue par le maire, elle était soutenue par la pasteur, c'était non violent, point. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont repartis aussi vite qu'ils sont venus en disant de toute façon, avec ce niveau-là de non-violence, vous n'obtiendrez rien, donc ciao, on va voir ailleurs. Voilà. Mais au moins, ça a permis qu'on reste jusqu'au bout ensemble et qu'on ait pu, vivre les choses à peu près. C'était pas non plus paradis, hein, mais quand même, grosso modo, les choses se sont bien passées. Cela dit, voilà, moi j'ai participé à des discussions avec des zadistes où on réfléchissait si on allait lancer des clous sur la route pour crever les pneus des machines qui arrivaient pour couper les arbres, est-ce qu'on est dans la violence ? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand les zadistes, tout ce qu'ils ont fait, c'est préparer des ballons de peinture à lancer sur les GM, globalement, ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, est-ce que c'est de la violence ? Enfin, vraiment, c'était des questions. Enfin, moi, cette question-là, elle m'est apparue beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique, et donc finalement beaucoup plus compliquée quand on est dans le pratico-pratique de se dire où ça commence. Et je me souviens très bien, pour donner cet exemple, on a eu des visites d'un certain nombre de politiques et Yannick Jadot à qui je disais quand un jeune lance de la peinture sur un GM, est-ce que c'est de la peinture ? Et il m'a regardé, c'est de la violence, il m'a regardé, l'air de dire mais c'est quoi cette pasteur là ? Enfin, j'ai vu dans son regard qu'il était complètement, il comprenait plus où il était. Mais c'était aussi des rencontres intéressantes. Prérequis oui, mais honnêtement là, alors moi j'ai pas fait de manif pour les retraites, je suis désolée. Mais j'étais invitée par des étudiants en sociaux à discuter de ce que j'avais pu vivre et ils étaient extrêmement insistants sur cette question-là avec leur rage, avec vraiment leur colère, leur désespoir et tout ce que j'ai pu leur dire. Je pourrais jamais être violente, mais qu'est-ce que depuis que j'ai traversé cette lutte, je comprends qu'on puisse en tout cas en ressentir et quelque part se dire j'ai besoin de l'exprimer, de la vivre. Et aussi, j'apprends, et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important, à la dénoncer de la part des forces de l'ordre. Parce qu'on voit bien... je ne vais pas faire mon chapitre anti-Macron, mais, mais quand même, y a une augmentation de la violence du côté des forces de l'ordre. Et ça aussi, peut-être qu'en tant que chrétien, on a là une parole à avoir c'est totalement inadmissible. Et on renvoie, vous voyez bien dans les médias, hein, la violence, elle est toujours du côté des manifestants et jamais du côté des forces de l'ordre. Donc je ne réponds pas vraiment à la question, mais ça reste un vrai nœud et où je pense qu'on a vraiment matière à continuer à discuter. Personnellement, demain, dans un des trois temps de forum ouvert, je discute volontiers avec ceux qui ont envie parmi vous sur la question de la désobéissance civile, jusqu'où, comment, etc., avec grand plaisir.
Juste ajouter un truc, j'ai absolument pas de réponse, je suis paumé comme toi, peut-être plus même. Juste cette phrase que certains connaissent de Don Elder Camara, hein, qui était lui un pacifiste jusqu'au bout, qui a choisi la non-violence radicale, mais qui disait il y a trois types de violence. Il y a la violence institutionnelle, c'est-à-dire la violence contre les personnes opprimées, contre les écosystèmes. La violence révolutionnaire, c'est celle qui s'oppose à cette violence-là. Et la violence policière, qui réprime l'opposition. Et Elder Camara disait simplement ceux qui dénoncent sans cesse la violence révolutionnaire sans jamais dénoncer ni la violence institutionnelle ni la violence policière, c'est juste des hypocrites. Voilà, donc ça ne résout pas la question des violences révolutionnaires, mais violence policière, violence institutionnelle d'abord.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir poser une question ? S'avancer ? Oui.
C'est Jérémy.
Nous, on se posait la... enfin, on était interpellés par, par le Christ qui disait « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi mais très intéressant d'en parler pour le travail. Et on se demandait, du coup, dans les structures capitalistes considérées ici par, comme des structures de péché, un peu, en tout cas rapidement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à accomplir plutôt que de vouloir toutes les abolir ? Est-ce que dans le capitalisme, il n'y a pas quelque chose de bon ? Et est-ce qu'il faut absolument y répondre par l'abolition et non pas trouver une voie intermédiaire ou, une, ou essayer de sauver ce qu'il y a à sauver ?
D'accord. non, non, mais c'est... De toute façon, on peut poser que des questions, je dirais, pour l'instant. Et c'est déjà bien de se les poser, parce que je trouve qu'il y aura un problème qu'on arrêtera de se poser les questions. Et justement, pour l'avoir vu, si des actions de sabotage, ça amène à se poser et à interroger des stratégies, à continuer à s'interroger, à se poser des questions, c'est bien. Si ça génère une colère et une violence qui referme la réflexion, qui referme la question et qui, quelque part, arc-boute sur une forme de réaction et de confrontation directe, je pense que là, c'est une erreur. Il y a eu des textes très intéressants, je trouve, qui sont parus sur la Revue Terrestre, je crois un groupe féministe, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, qui a interrogé les stratégies qui avaient été mises à Sainte-Soline et au Bassine. Elle déconstruisait plein de choses et j'avais trouvé ça hyper intéressant et j'espérais qu'il y en ait beaucoup plus et j'en ai pas vu beaucoup plus, en tout cas publiquement, alors que pour moi là c'était le début d'un signe de quelque chose qui arrivait à avoir une potentielle erreur et qui arrivait à évoluer et il faut pas avoir peur d'évoluer en fait. Je pense que c'est pas une faiblesse, ou alors c'est la faiblesse, c'est une force pour le coup. Donc je pense que là il faut y aller quoi. Il faut interroger tout ça. Et après, sur ta question, est-ce que les institutions capitalistes sont capables de se transformer dans un cadre eschatologique ? Alors là, je botte en touche.
Et en fait, je pense qu'il faut... Alors évidemment, il faut éviter de faire du capital ou du capitalisme une sorte de mot-clé qui expliquerait tout et qui serait l'objet de notre opprobre et de notre critique. Et puis ça permettrait de ne pas se poser trop de questions. On doit maintenir la question, comme tu le dis. Et le capitalisme, c'est d'abord tout ce matériel, etc., qui est ici, toute cette industrie qui est derrière, et tous les gestes quotidiens qu'on fait et qui supposent cette organisation du monde. Donc, c'est de fait. C'est une vraie question. Cela dit, il faut se rappeler que le capitalisme, c'est un mode de production qui a une naissance historique, qui concerne certains pays du monde, de plus en plus de pays du monde, certes, qui tend à s'étendre, mais qui a une naissance historique. Et à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à l'échelle des peuples, l'organisation capitaliste de la production, c'est un tout petit truc. Donc c'est un petit truc à commencer, c'est aussi un petit truc qui peut finir. Et il n'y a pas, à mon avis, de croyance linéaire dans l'histoire à avoir qui voudrait que chaque époque accomplisse ce qui était en germe dans l'époque précédente. Non, il y a des époques qui font des trucs, qui se plantent, il y en a qui font des trucs bien, il y en a qui font des trucs pourris. Et l'histoire, c'est un foisonnement de tentatives, d'essais, etc. Il n'y a pas de linéarité progressive qui voudrait dire que on doit nécessairement accomplir. Enfin, ça doit nécessairement. Il y a forcément des germes là-dedans qui sont bons. Non, il y a plein de moments dans l'histoire où on s'est complètement planté, quoi. Moi, je pense que le capitalisme, on se plante complètement. Et je pense que c'est facile de faire autrement parce que les hommes ont plus souvent, dans l'histoire du monde, vécu autrement que par la séparation entre les travailleurs et les propriétaires du capital que comme ça. Donc, en fait, il y a plus dans les ressources de l'histoire et des peuples de tradition et de sagesse pour vivre autrement que dans le capitalisme que pour vivre dans le capitalisme. Donc voilà, je pense que la question, c'est pas trop est-ce qu'il y a quelque chose à accomplir, enfin pour moi en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose à accomplir dans le capitalisme, c'est comment est-ce qu'on veut organiser nos vies d'une manière qui nous fait vivre heureux, juste les uns avec les autres. Bon bah voilà, alors on n'a pas de nécessité, a priori, de devoir, à mon sens, repartir des bases capitalistes. On peut faire tout autrement.
On va prendre encore une ou deux questions. Oui ou... Alors, Julie, et puis après...
Euh... Oui, Caroline, tu le disais, le GCO, quand même, ça s'est soldé par un échec, quoi. Alors même qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps sur la table. Sur le plateau de Saclay, les terres agricoles, c'est pareil. C'est aussi une lutte qui est en train d'être perdue avec une ligne 18 qui arrive et qui va bétonner le plateau. Comment, en tant que chrétien, on fait face à ces situations, à cette tentative de découragement? Et comment est-ce qu'à la fois, elle soutient l'engagement dans ce contexte? Et puis, comment, en tant que pasteur, on accompagne une communauté face à ce découragement?
Je pense effectivement à un moment où le pasteur n'a évidemment pas la solution, ni n'est pas la personne miracle, mais ça peut aider. Alors en l'occurrence, puisque je sais qu'avec Anne, avec laquelle j'avais préparé, elle m'avait suggéré de parler de la célébration qu'on avait fait d'enterrement des arbres, de la forêt, comme on a dit. L'idée, c'était effectivement, en tout cas, vraiment moi en tant que pasteur, à la fin, enfin au moment où les arbres ont été coupés, où la ZAD avait été évacuée, j'étais face à une population extrêmement variés, mais tous en deuil. Et voilà, moi, en tant que pasteur, quand je suis face à une population en deuil, j'ai un outil, c'est faire un culte d'adieu. Et donc, c'est ce qu'on a construit à cette occasion-là. On a fait un culte d'adieu où les zadistes sont allés rechercher un tronc dans la forêt et sont entrés dans l'église avec le tronc porté à l'épaule, comme on portait les cercueils autrefois. Et on avait mis des couverture devant pour que les zadistes puissent s'asseoir par terre autour du tronc et qu'ils n'aient pas à s'asseoir sur les bancs, ce qui était déjà vraiment trop demandé à certains. Et puis au-delà des jeunes, voilà, qui étaient tout près du tronc devant, il y avait 500 personnes jusqu'à la CGT qui a mis à disposition sa sono pour que les gens qui étaient dehors puissent entendre ce qui se passait dehors. Donc ça, c'est aussi ce côté communion comme ça, bien au-delà de nos petites maisons à chacun, qui est vraiment super. Et voilà, ça c'est un moment qui est resté extrêmement important pour les 500 personnes, et même symboliquement pour les autres qui n'étaient pas là, de se dire on a pris le temps de nous permettre de vivre un deuil. Et effectivement, je pense que c'est des choses extrêmement importantes. Je sais que se prépare là pour tout début septembre, quelque chose à Sainte-Soline. J'aurais beaucoup aimé y aller, malheureusement c'est un peu loin d'Alsace. Mais je pense qu'il faut soigner ces échecs, parce que malheureusement on en a un certain nombre devant nous encore, évidemment. Et il faut les soigner, il faut accepter de les vivre. Moi, dans le village en particulier, c'était clairement, on a perdu, on met le couvercle et puis on passe à autre chose. Alors non seulement on a fait cette célébration, mais avec ceux qui sont devenus des amis, mais artistes, on a créé un festival. Donc si vous voulez venir en Alsace du 10 au 20 septembre, on a créé un festival qui marque les dates. En fait, à la base, c'était surtout ça l'idée, c'était de marquer les dates importantes de cette lutte, le 10 et le 20 septembre. Et de tous les ans, pouvoir se dire, on a le droit de se retrouver, que ce soit pour faire la fête, mais que ce soit aussi peut-être pour pleurer un coup ensemble par rapport à ce qu'on y a vécu. Et donc on continue, là on prépare la quatrième édition qui a lieu donc dans 15 jours. En tout cas, ça c'est une dimension effectivement, où en tant que pasteur, la dimension vraiment liturgique. Alors c'était pas un culte protestant, on a des gens qui ont témoigné de ce qu'ils ont pensé de comment ils voyaient leur forêt. On a une jeune qui avait ramené des senteurs de cyprès, si je me souviens bien, pour qu'il y ait l'olfactif. Enfin, on a vraiment essayé aussi de parler à toutes les dimensions de la personne. Donc c'était vraiment une célébration extrêmement extrêmement ouverte, je crois bienfaisante vraiment pour tous ceux qui ont pu être là. Et oui, je pense que ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour accepter ces échecs. Et puis après, au-delà de ces moments de célébration, nous, ce qu'on a vraiment gardé, et ça je crois que c'est commun à d'autres lieux, c'est justement les amitiés, mais au-delà des amitiés, les liens extrêmement forts qu'on peut tisser dans des luttes avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Moi, ils sont devenus des amis, des gens que je n'aurais jamais dû rencontrer si on s'était pas si on s'était pas retrouvé là. Et moi, je crois en ces liens, je crois en cette toile d'araignée où voilà, sur laquelle il y a ces petits grains de poussière, et que c'est la toile qui les rend voilà, qui les rend visibles, et qui font qu'on est là, et qu'on est moi, je pense vraiment rester mobilisable, et qu'on va continuer à se mobiliser, parce que comme on le fait ce week-end, on tisse des liens qui sont je pense qu'ils peuvent vraiment être extrêmement utiles et fructueux pour les luttes.
Il y avait une dernière question qu'on va prendre. Ah, c'était la même. Bon, il y a une autre question. Voilà, ce sera la dernière question.
Merci du coup pour vos témoignages. Et la question qu'on se posait avec notre groupe, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'idée de promouvoir des temps partiels comme notamment ouvriers agricoles auprès des jeunes et auprès des chrétiens, et comment rendre cette proposition réaliste ? Temps partiel.
À mon avis, pour faire des temps partiels, il y a des maraîchers qui ont besoin d'aide. Vous pouvez déjà faire du woofing. Alors, ça, vous n'êtes pas payé, mais vous êtes nourri, logé. Mais surtout, c'est qu'il va falloir des paysans chez qui aller, quoi. Enfin, sauf si vous voulez faire des temps partiels pour ramasser des fraises dans des serres hors sol. Mais si vous voulez faire des temps partiels agricoles paysans du style dont on a parlé, il va falloir d'abord que certains d'entre vous aillent s'installer comme paysans pour que d'autres puissent venir bosser chez eux. Parce que le problème, c'est ça, là. Enfin, désolé.
T'es dur. Mais après, voilà, il y a, en tout cas, il y a des installations collectives qui peuvent permettre d'organiser mieux le travail et de faire des rotations et de permettre de partir en vacances. Donc ça, c'est pas vraiment un temps partiel, mais il y a des vacances, on va dire, et des formes plus autochtones, on va dire, plus familiales, qui effectivement sont plus contraignantes. Donc, mais là, c'est un thème intéressant. Je réponds pas à la question, mais c'est intéressant parce que, à mon avis, il y a une part du début de quelque chose de ce pourquoi on en est là aussi. C'est qu'en fait, l'histoire de la modernité, c'est l'histoire de fuir la nécessité et fuir la nature qui nous contraint, des familles. Et donc, c'est ça, c'est l'histoire du progrès, en fait. C'est l'histoire du progrès. Donc, en fait, il faut arriver à remettre un petit peu en question cette histoire du progrès avec ce que ça comporte, en fait, comme contrepartie. J'y reviens, parce que quand il faudra substituer l'énergie fossile par d'autres énergies, même si le vivant travaille très bien hein, sans énergie fossile, avec l'agronomie, aujourd'hui, on y arrive très bien. Moi, mes pratiques de maraîchage, j'arrive à avoir des temps de travail très raisonnables en mettant le vivant au travail. Hein. Moi, je travaille, mais le vivant travaille aussi. Mais voilà, on ne peut pas totalement réduire complètement la dépendance à des énergies fossiles. On peut les réduire énormément, à, je sais pas, à 80%, mais il faut, y a une part voilà, qui... Voilà, j'en reviens à cette question du travail. Et c'est... Faut pas se raconter d'histoire, en fait. Il y a l'accès au foncier qui rend le fait que le métier paysan soit peu difficile d'accès, mais faut pas se raconter d'histoire. Il y a aussi le fait que c'est un métier contraignant. Notamment géographiquement, et qu'on est attaché à une terre. Alors voilà, et par contre, c'est comment renverser la question en quand tu cultives ton terrain de maraîchage et que tes plantes, la verte, c'est la photosynthèse, donc c'est la lumière du soleil, donc les plantes se nourrissent, et que le soir, il y a les étoiles qui surgissent et la voûte céleste, etc. En fait, ça s'appelle le voyage immobile. En fait, on peut lire Pessoa, etc. Donc en fait, c'est ça dont il s'agit pour moi. C'est arrêter de courir après un imaginaire d'extériorité. Enfin, c'est pas il faut aller dehors, hein, mais et c'est comment à travers le travail voyager en fait en quelque sorte. Et le métier de paysan, il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont autant en lien avec le vivant en fait. C'est le vivant qui te fait vivre et c'est le vivant que tu nourris et qui te fait vivre. Bon, en fait, là, on est un peu au cœur d'une question théologique à mon avis, donc. Donc, je suis désolé de ne pas répondre à la question, mais je suis sûr que c'est possible. Voilà, je pense que... En tout cas, moi, il y a des gens qui embauchent hein, quand même, des petites fermes, etc., qui embauchent, hein, donc ça, c'est possible, sur des saisonniers. Voilà, et sur des... Mon petit frère, il est éleveur de brebis dans le Vercors. voilà, grâce au loup, ils ont beaucoup d'aide. Donc, en fait, tu peux être berger, tu peux être dans les estives, tu peux passer 3-4 mois dans des estives, dans le Mercantour ou autre, avec un salaire. Voilà, tu passes 3-4 mois, par contre, voilà, dans la montagne, quoi. Mais ça, sur des temps courts, c'est possible, à mon avis. Ça, c'est complètement possible.
Merci. Ben, ça en inspirera peut-être quelques-uns pour s'installer définitivement ou temporairement. Merci beaucoup à Benoît, à Caroline, à Mathieu et à tous ceux qui ont posé des questions. Et écoutez attentivement.